Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de midi au micro Lievin Bouinga. D'abord les titres, ouverture ce jeudi à Kinshasa du procès très attendu qui s'ouvre ce jeudi contre plusieurs officiers de FRDC à la haute cour militaire. Ces hauts gradés de l'armée sont accusés d'avoir abandonné leur position face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda à Goma, au Nord Kivu et à Bukavu, au Sud Kivu. Et puis ce malheur qui frappe environ 24 500 élèves, dont plus de 2000 finalistes du primaire et du secondaire en Ituri. En fait, ils ne vont plus à l'école depuis le mois de février. À la base, la résurgence des violences des groupes armés, surtout dans le territoire de Djougou. Enfin, ouverture ce jeudi du sommet extraordinaire de la SADC, au menu la mission de la SAMI DRC et le rôle qu'elle entend jouer face à l'évolution de la situation dans le Nord et Sud Kivu. Nous en parlons avec l'analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, Christian Moleka est notre invité. Encore une fois, bonjour, mais sachez d'abord qu'il y a ouverture ce jeudi d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement des pays de l'Afrique australe. Objectif de ce grand rendez-vous qui se tient par vidéoconférence, examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. L'analyste politique Christian Moleka souhaite que cette organisation sous-régionale de s'abstenir de toute logique de confrontation en planchant sur la sécurisation des populations pour éviter d'envenimer la situation sur terrain. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Sous le patronage d'Emerson Namangwa, président de la République du Zimbabwe et président en exercice de la communauté des États d'Afrique australe, ces travaux s'ouvrent dans les heures qui suivent par vidéoconférence. Ils vont consister, entre autres, à statuer sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Selon un communiqué de la SADC parvenu ce jeudi à Radio Kapi, ce sommet planchera également sur les recommandations issues de la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka, de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la SADC tenue le 6 mars courant. Pour l'analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, il serait mieux que la SADC s'intéresse plus à la sécurisation des populations civiles en évitant toute confrontation dans la région. Christian Moleka.
Probablement, on ne va pas aller vers un engagement plus militaire. On va aller vers une mission de sécurisation des populations, de mise en place de couloirs humanitaires et éventuellement d'accompagnement du CONOP.
Ce sommet se tient pendant que le gouvernement angolais a fixé au 18 mars au courant le début des négociations directes entre les délégations de Kinshasa et les rebelles du M23 dans la ville de Luanda, capitale de l'Angola.
Un autre rendez-vous ici au pays cette fois, c'est le procès très attendu qui s'ouvre ce jeudi à la haute cour militaire ici à Kinshasa. Un procès contre plusieurs hauts gradés des FRDC accusés d'avoir abandonné leur position face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda à Goma au nord Kivu et à Bukavu dans le sud Kivu. À la veille de l'attaque de Goma par le M23, plusieurs généraux et officiers avaient en effet quitté précipitamment la ville pour se réfugier à Bukavu, laissant derrière eux troupes et matériel. À Bukavu, la situation s'est répétée, certains officiers ayant également fui vers Uvira. Un procès qui sera retransmis en direct sur la RTNC, annonce le ministère de la Justice. Les détails avec Martial Papimukeba.
Dans un communiqué publié mercredi, le ministre d'État en charge de la justice annonce que ses officiers sont poursuivis pour avoir abandonné leur position face à l'ennemi, laissant derrière eux des armes, des munitions, du matériel militaire ainsi que des blessés, notamment à Goma et Bukavu. Il précise également que la retransmission en direct du procès sur la RTNC vise à garantir la transparence de la procédure et à informer l'opinion publique sur les responsabilités engagées. Des sources sécuritaires rapportent que la veille de l'attaque de Goma par les rebelles du M23, plusieurs généraux et officiers des FRDC avaient fui vers Bukavu, abandonnant leurs troupes sur le terrain. La débâcle s'était poursuivie à Bukavu. D'autres officiers avaient également pris la fuite, laissant la ville sans commandement militaire et se dirigeant vers Uvira. Ces retraits en chaîne auraient facilité l'avancée des rebelles et précipité l'occupation de Goma et Bukavu. Au sein de l'armée, ce procès est présenté comme exemplaire et s'inscrit dans les efforts des autorités pour restaurer la discipline au sein des FARDC.
Entre-temps, la ligne de front continue à bouger sur l'axe Kaziba dans le territoire de Walungu. Nous sommes au sud Kivu. Les rebelles braquent leurs projecteurs dans deux directions différentes. Deux jours après le contrôle de Kaziba Centre, une partie se dirige vers Luhinja, une chefferie du territoire de Mwinga, riche en or. Un autre groupe prend la direction des moyens plateaux de Kaziba pour avoir une ascendance sur les localités de la plaine de la Ruzizi pour aboutir sur la ville d'Uvira. Toutefois, les Wazalendo et les troupes burundaises qui combattent aux côtés des FARDC renforcent eux aussi leur position sur le front sud. Et puis, spectacle macabre ce jeudi matin dans la ville de Bukavu. Une dizaine de corps jonchaient les rues de différentes avenues de cette ville du sud Kivu. Les circonstances de leur mort restent encore un mystère. Même la population ignore les circonstances de ces tueries dans cette ville où, je vous rappelle, la police n'existe plus, moins encore la prison depuis sa prise par le M23 soutenue par le Rwanda. Ronly Timbonera.
Les habitants de toutes les trois communes de Bukavu comptent les morts chaque jour, mais la nuit dernière a battu le record. 13 corps, majoritairement criblés de balles, gisaient dans différents endroits. Les cadres de base des avenues éplorées ont rapporté la situation ce matin aux responsables du M23 qui contrôle actuellement la ville de Bukavu. Et en dehors de Bukavu, les milliers ruraux sont aussi infectés par l'insécurité. Des hommes armés, non autrement identifiés, ont semé la terreur toute la nuit à Mumosho. Cette famille ont été visitées par une bande de gangsters armés. Ils ont tabassé et blessé un couple avant de dévaliser leur maison de commerce. Les assaillants se sont introduits par effraction dans plusieurs autres maisons qu'ils ont pillées des fonds en comble.
Place à présent à ce rapport alarmant de l'ONG Human Rights Watch au sujet des exactions commises par le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et l'Alliance Fleuve Congo. Selon ce document publié hier mercredi, ces hommes menacent, placent en détention et attaquent des journalistes, des détracteurs et des activistes de la société civile depuis la prise de Goma et de Bukavu. L'ONG affirme également avoir reçu des informations crédibles indiquant que plus de 200 activistes ont fait des demandes de protection depuis que le M23 a lancé son offensive sur Goma en janvier, puis a pris la capitale provinciale du Sud Kivu, Bukavu, en février dernier. Le résumé de ce rapport avec vous, Blaise Makassi.
Dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, note le rapport, les combattants du M23 ont fait des descentes dans les maisons et proféré des menaces de mort et de représailles, sapant le travail des médias indépendants et d'organisations de la société civile. Les combattants du M23 ont également placé en détention des leaders de la société civile et commis des exécutions sommaires, notamment le meurtre du chanteur Delgati Dengo, qui était aussi activiste, à son domicile et 5 hommes soumis à du travail forcé. Les autorités du M23 et de l'AFC ainsi que le gouvernement rwandais sont tenus de respecter le droit international humanitaire dans les zones qu'ils occupent. Il devrait permettre aux activistes de la société civile et aux journalistes de travailler et de se déplacer librement et faire rendre des comptes à leurs membres responsables d'abus, recommande le rapport. Après la prise de Goma par le M23 et les forces rwandaises, l'AFC a remplacé la police et d'autres institutions gouvernementales nationales dans la ville. Depuis lors, des combattants du M23 ont battu et exécuté sommairement des personnes suspectées de soutenir les forces armées congolaises et leurs alliés et ont pillé des maisons, conclut le rapport.
Revenons sur ce malheur qui frappe environ 24 500 élèves, dont plus de 2000 finalistes du primaire et du secondaire en Ituri. En fait, ils ne vont plus à l'école depuis le mois de février. Ces chiffres ont été rendus publics mercredi par le président de l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, Anapeko. David Mputu attribue cela à la résurgence des violences des groupes armés, surtout dans le territoire de Djougou, mais aussi à la psychose observée depuis deux semaines, notamment à Bounia, qui a entraîné le déplacement des milliers de gens. Face à cette situation, il demande au gouvernement de mettre fin au conflit armé qui persiste depuis 2017 avec des conséquences graves sur l'éducation des enfants. David Poutou est au micro d'Isaac Raymond.
Nous avons beaucoup de nos enfants qui ne partent pas à l'école. Nous avons au moins 24 558 élèves qui sont inscrits régulièrement, dont pour ce moment, ils sont en errance. Nous avons recensé au moins 66 écoles qui sont dans la rue depuis le mois de février. Nous avons au moins 1622 élèves finalistes de primaire. Nous avons également 526 élèves finalistes qui attendent l'examen d'État. Les enfants ont abandonné les études à cause de l'insécurité. Donc, c'est un message que nous demandons aux autorités habilitées à donner la paix, à rassurer la paix au niveau de parents pour que le parent reste constant dans le milieu. Nous aimons bien que les enfants restent et continuez à étudier. Mais lorsque vous n'avez pas la sécurité de vous-même en main, pouvez-vous accepter d'y rester? À l'autorité d'assurer la sécurité aux parents.
Encore des chiffres, mais sur le plan sanitaire cette fois, 32 cas de choléra enregistrés à la 10e semaine dans l'aire de santé de Mulunguzi, zone de santé de Moba. Nous sommes là dans la province du Tanganyika et l'alerte est lancée par le médecin chef de zone de santé ad intérim. Docteur Rikimbayo, vous allez l'entendre, indique que plusieurs cas de choléra proviennent de différents villages. Se confiant ce jeudi à Radio Kapi, il alerte sur cette situation qui nécessite, d'après lui, une mobilisation urgente et collective pour lutter contre le choléra. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Paulin Munanga.
Jusqu'à ce jour, on continue encore à notifier des cas. Du moins, on notifie et on riposte parce que les intrants sont là. Ce n'est pas seulement Mulunguzi Centre. Les villages différents de l'aire de santé de Mulunguzi sont en train de notifier des cas. Quand on commence à notifier 2, 3, 4 cas par jour, là, ça commence à être inquiétant. Mais de manière générale, la zone de santé de Moba vit avec cette maladie. Même l'axe plateau n'est pas épargné. Parce que nous sommes en mouvement. Il y a des gens qui quittent Mulunguzi, qui passent par Mutambala, qui se retrouvent à Mulondi. Vous connaissez vous-même la transmission de cette maladie. Elle est très rapide. Donc, nous allons demander aux gens de respecter les gestes barrières. Donc, se laver les mains avec du savon, ne pas jeter les matières fécales dans les cours d'eau. Si vous avez été en contact avec quelqu'un qui est soupçonné, il faut vite aller vous présenter au centre pour une désinfection. Et quand on a un cas suspect, vite aller au centre, annoncer pour qu'on puisse déjà riposter, aller désinfecter le lieu là où a vécu la personne malade.
Une nouvelle un peu plus gaie, la ville de Lubumbashi a un nouveau maire. Il s'agit de Patrick Kafouimbi. Il remplace à ce poste Martin Kazembe et retrouve un milieu qu'il connaît pour avoir travaillé dans le cabinet de l'ancien maire, aujourd'hui vice-gouverneur du Haut-Katanga. Patrick Kafouimbi est le président de la jeunesse de l'UDPS pour le compte de la Fédération de Lubumbashi 3. Bien avant sa nomination, l'intérim de la ville était assuré par Joyce Tunda, maire adjointe, et elle aussi membre du même parti politique. Jean Gandou nous présente les attentes des Luchois vis-à-vis de la nouvelle autorité urbaine. Suivez.
Le nouveau maire intérimaire a été nommé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemin Tchabani. Patrick Kafouimbi devrait faire face à beaucoup de défis. C'est notamment l'insalubrité. À ce sujet, la ville de Lubumbashi perd de plus en plus de son éclat. Les activités menées sur le terrain par l'actuel maire s'essoufflent. Les conséquences d'états d'immondices sont visibles à plusieurs endroits au centre-ville. Pour de nombreux Luchois, la nouvelle autorité urbaine devrait faire de cet aspect des choses son cheval de bataille, surtout en cette période pluvieuse où les choléras a déjà touché toutes les communes de Lubumbashi et a endeuillé de nombreuses familles. Le nouveau maire devrait aussi consolider la lutte menée par la maire adjointe contre les embouteillages, avec notamment l'interdiction faite aux taxis moto d'accéder au centre-ville. Un autre dossier, c'est celui de l'insécurité. Le cas des vols, des viols et des meurtres sont signalés dans plusieurs quartiers, privant ainsi un sommeil apaisé à de nombreuses familles de la capitale du Cuivre. Une autre opinion souhaiterait que le nouveau maire et son adjointe travaillent à l'unisson pour l'intérêt de la ville, en mettant de côté des petites dissensions pour redorer l'image ternie de la ville. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Les habitants des villages Lumamba et Kavundangania dans le Maniema à couteau tiré, leur dernière altercation a fait plusieurs blessés graves et le viol des femmes. À l'origine, un conflit foncier opposant les habitants de ces deux villages situés dans le secteur de Bebewamaza en territoire de Kabambaré. Selon le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité qui est sur place, ces affrontements du week-end dernier fait un bilan de 7 personnes grièvement blessées et des femmes systématiquement violés. Deux voix se lèvent de part et d'autre pour condamner ces actes et appeler les autorités compétentes à remettre l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Florence Kizalunga.
Le ministre provincial de l'Intérieur, après sa visite aux victimes, Lawa Moselemani fait savoir que ces actes ne resteront pas impunis.
C'est un dossier qui évolue au niveau de la justice à Kindu. Pendant qu'on attendait qu'il y ait une solution finale, contre toute attente, les gens se permettent de se lancer dans des actes de vandalisme. C'est pourquoi, alors, pour ceux qui se sont compromis, ceux qui ont blessé, ceux qui ont violé, on va les attraper et ils vont être acheminés devant les instances judiciaires pour qu'ils puissent répondre.
De son côté, le député national de Kabambaré appelle à la cohésion. Emedi Amour Xavier.
Moi, je voulais interpeller mes frères qu'ils puissent créer un amour, qu'ils puissent créer un sentiment de vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble regorge beaucoup d'éléments. Et je suis en train d'interpeller les autorités en place. Précisément, et surtout les chefs de secteur de Bébé Omaza, je voulais qu'ils prennent le devant, qu'ils se mettent autour d'une table, qu'ils trouvent une solution que moi j'appelle une solution coutumière. Parce que la coutume, c'est celle qui nous met ensemble. La coutume a une force dans nos sociétés africaines.
Signalant que ces blessés et ces femmes violées sont internées au centre de santé de Wamaza pour leur prise en charge. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le CAP accueille le 8e sommet Union européenne-Afrique du Sud, conjointement présidé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa. La réunion devrait être marquée par un renforcement du partenariat entre Bruxelles et Pretoria dans un contexte de grande tension internationale, notamment avec les États-Unis.
L'invité.
La communauté économique des pays d'Afrique australe ouvre ce jeudi son sommet extraordinaire qui devrait tabler éventuellement sur la mission de la SAMIDRC et le rôle qu'elle entend jouer face à l'évolution de la situation dans le Nord et Sud Kivu. Invité de Radio Kapi, Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, souhaite qu'avec l'évolution sur terrain, les troupes de la SADC s'engagent à une mission de sécurisation des populations en mettant en place un couloir humanitaire. Christian Moleka s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, monsieur Christian Moleka.
Bonjour.
La communauté économique des pays d'Afrique australe, SADC, ouvre son sommet extraordinaire ce jeudi 13 mars. Quel est le crédit que vous accordez à cette rencontre par rapport à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC?
La crédibilité, ce sera l'avenir de la SAMIRDC dans un environnement qui se dégrade, se détériore. Quelle sera la capacité de cette organisation, notamment via la SAMIRDC, à continuer à jouer un rôle, notamment militaire sur terrain.
Au regard de la situation sur terrain, quelle est l'importance que vous donnez à ces sommets après la chute de la ville de Goma et celle de Bukavu?
La SAMIRDC s'était déployée dans la perspective de soutenir Kinshasa. La réalité sur terrain s'est avérée tout autre et les risques de confrontation régionale ont poussé certains à réévaluer l'engagement. Et donc aujourd'hui, probablement, on ne va pas aller vers un engagement plus militaire. On va aller vers probablement une mission de sécurisation des populations, de mise en place de couloirs humanitaires et éventuellement d'accompagnement du CONOPS qui appelle à neutraliser les FDLR, mais également à sécuriser les civils. Je crois que cette mission va s'orienter vers cette solution qui est moins offensive plutôt que dans une logique de confrontation telle qu'elle l'avait développée avant la prise de Goma et de Bukavu. Bien évidemment, ça va se faire en concertation avec l'EAC et donc c'est une dynamique qui devient plus complexe parce qu'elle fait désormais appel à une convergence des deux organisations et elle risque de devenir très lourde dans la prise de décision.
Certains pays de la SADC ont exprimé déjà leur besoin de retirer leurs troupes de la RDC. D'autres sont devenus réticents. Vous ne pensez pas que ce climat risque de renforcer la méfiance entre la population congolaise et les troupes de la SADC?
Bon, comme je l'ai dit tantôt, le niveau d'engagement qu'il y a eu à Goma a dissuadé certains États, notamment le Malawi. En Afrique du Sud, aujourd'hui, il y a tout un débat sur l'avenir ou non de leur engagement au Congo. Pour l'opinion congolaise, ce sera peut-être une douche froide parce que les Congolais, en cette période de crise, ont besoin de la solidarité et cette solidarité n'est pas que diplomatique et verbale. La SADC, en tant qu'organisation, a également des mécanismes de sécurité collective. Et donc, les Congolais ont droit de revendiquer cette sécurité collective. Seulement, comme je l'ai dit, les risques de confrontation régionale, les degrés d'engagement qu'il y a eu à Goma a certainement influencé la perception de l'engagement de la SADC et il est très probable qu'on ait un engagement à minima, qu'il ne soit plus dans la logique militaire et qu'il travaille davantage à des solutions négociées et donc politiques.
Alors, quelle analyse faites-vous, monsieur Christian Moleka, de l'annonce de la présidence angolaise sur les négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23?
Bon, déjà, ce n'est pas quelque chose de nouveau venant de l'Angola. Je le rappelle quand même, avant que le sommet de Luanda ne capote, le président angolais avait déjà tenté de ramener le M23 à la table de négociation. C'est que Kinshasa avait refusé à l'époque et qui avait conduit à l'échec du sommet du 15 décembre tripartite de Luanda. Le président angolais, qui a reçu le soutien du Conseil de sécurité, notamment avec la résolution 2773, est amené à organiser le pourparlers avec toutes les parties prenantes, y compris les 1-23. Tels étaient les termes de la résolution. Et donc, à ce jour, le président angolais travaille à créer les conditions de cette négociation directe. Nous sommes dans une logique où, après la pression diplomatique sur le Rwanda, il y a une sorte de pression sur Kinshasa pour l'ouverture des négociations. Et je crois que Kinshasa a fait preuve de bonne foi, d'assouplissement, pour offrir cette possibilité des négociations avec les 1-23. Ce qui reste maintenant aujourd'hui, ce sera le format.
Alors, que répondez-vous à ceux qui craignent que les négociations ne soient pas sincères du fait que Kinshasa est amené des forces à la table des négociations?
Bon, les négociations, c'est un jeu, c'est toujours empreint d'hypocrisie, empreint d'agenda caché. Donc Kinshasa, malgré lui, est appelé à venir sur la table, malgré la raideur du président. La dynamique internationale et régionale, c'est celle de négocier. Et donc Kinshasa va y aller, d'autant plus que sur terrain, la dynamique militaire n'est pas favorable.
Monsieur Christian Moleka, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, ainsi s'achève ce journal de midi. Si vous l'avez aimé, je vous dis tout de suite qu'il a connu le concours rédactionnel et technique de Martin Sebujangwe, Élisée Chikota et de Dieudonné Nyankasa. Quant à moi, je vous dis merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.